Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 135e épisode de Torréfaction. Comme toutes les semaines, on dépiote l'actu gaming, app culture et tech. Et on fait ça avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille.
Ça va bien?
Bah écoute, super bien. C'est dommage que les gens ne savent pas que maintenant je connais tout David ton chat. Nous avons commencé par discuter des problèmes de comportement de ces animaux à poil.
C'est comme des gosses, hein, je te jure.
Ça nous a fait beaucoup rire. Bref, il paraît qu'on a des trucs avec des machins, avec des 0 et des 1. Il faut qu'on parle d'informatique. Je sais pas, c'est compliqué ce podcast aujourd'hui.
Bah écoute, allons-y et parlons gaming avec un éditeur de map pour Northgard.
Voilà, bah t'as tout dit. Merci beaucoup. Northgard, c'est le petit jeu de stratégie dont on parle depuis un moment, qui est made in France, qui est vraiment extrêmement sympathique, qui évolue avec tout un tas de DLC, de patchs, etc. Mais vraiment avec un gros suivi, donc vraiment c'est très très bien fait. Si vous avez dépensé de l'argent dedans, vous n'avez pas à le regretter. Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être le moment. Car justement, donc avec cet éditeur de map, maintenant on peut faire tout un tas de trucs qui n'étaient pas possibles avant, mais vous pouvez construire en fait vos propres scénarios, vous pouvez bidouiller vos IA pour créer des situations un petit peu débiles ou pas, ou un petit peu challenging si vous aimez la difficulté, quoique le jeu de base normalement est là pour vous calmer. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je vous ai linké tout ce qu'il faut savoir dans le billet qui accompagne le podcast et c'est toujours aussi joli, l'interface est toujours aussi sympa. Faites-vous plaisir, c'est le moment.
Et on reste dans le gaming avec le gros bundle du moment. C'est quoi? C'est 1500 jeux, c'est ça?
C'est n'importe quoi, je ne sais plus. Je ne sais plus, puisque ça change au moment où j'ai pris des notes, le moment où je l'ai mis dans la conduite et le moment où j'ouvre la page web. Là, maintenant, tout de suite, ça a encore changé. Donc, on parle évidemment du bundle for racial justice and equality de chez itch.io lève des millions de dollars, puisque moi, quand j'avais noté le truc, on n'était pas encore aux 2 millions. Et là, on va bientôt atteindre les 5 millions au moment où on enregistre le podcast. Donc, quand vous allez l'écouter, on sera certainement au-dessus des 5 millions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bundle? C'est un énorme bundle qui est disponible sur le site itch.io avec plus de 1500 produits. Alors, il n'y a pas que des jeux, il y a des assets pour faire vos propres jeux aussi. Donc, vous n'avez pas non plus que du jeu vidéo à l'intérieur. Mais si vous êtes un créateur, c'est hyper intéressant à savoir parce que ça fait beaucoup de choses. Et quand ils ont ouvert le truc, il y avait genre à peu près 700 jeux, qui était déjà n'importe quoi, et maintenant on en est donc effectivement, le chiffre actuel c'est 1509, et tout ça pour le prix de base de 5$. C'est du vol en fait, hein, donc donner plus, je crois, parce que pour 5$ c'est vraiment n'importe quoi. La contribution moyenne des gens qui donnent pour ce bundle c'est à peu près 10$, et dedans on trouve des trucs de ouf. Il y a Céleste par exemple maintenant à l'intérieur, il y a Gladiaboss de notre pote GFX40 qui est une énorme tuerie. Si vous l'avez pas, c'est le moment, aucune excuse pour pas faire Gladiabot. Je pourrais continuer très longtemps parce que en fait il y a Minit qui est hyper rigolo, il y a des sélections en fait de gens, il y a pas mal de gens qui ont donné leur avis en disant voilà, ça c'est les trucs à aller tester dans ces 1500 jeux. Je vous donne même pas de lien pour ça parce qu'en fonction de vos goûts ça n'aura pas d'intérêt. Il n'y a pas de launcher en fait, itch.io c'est un énorme bordel, voilà, donc ça c'est fait. Je suis obligé de vous l'avouer. Donc quand vous achetez le package, vous avez accès à une page web avec tous les jeux sur, je sais plus maintenant, ça va être 10 pages à scroller, et sur ces 10 pages, vous téléchargez ce que vous voulez en fait. Donc il y a pas vraiment, ça va être ajouté à votre bibliothèque si vous avez le launcher itch.io, mais pour gérer vos installations, etc. C'est pas Steam quoi, il y a pas de clé Steam qui viennent avec ces jeux-là, c'est à la route.
Il faut avoir du temps quoi.
Faut avoir du temps et des envies, mais en même temps, j'ai envie de dire que même si vous avez l'intention de pas jouer à grand chose, petit peu comme moi, parce que ceux qui m'intéressent, je vais être honnête avec vous, je les avais déjà. Oui, j'ai mis ma contribution parce que je pense que c'est une cause plus qu'importante. On va même pas rentrer dans le débat parce que sinon, il faut faire un autre podcast. mais en revanche, si vous avez une petite bibliothèque de jeux, vous venez de passer sur PC, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien les jeux mais qui en achète rarement, etc., écoutez, prenez-le, offrez-le, faites-vous plaisir. c'est impossible de pas trouver un truc qui vous plaise dans le tas. Alors oui, il y a des trucs que vous lancerez jamais de votre vie, hein, faut être très clair. Enfin, je veux dire, plus de 1500 produits, même en les testant très très vite, ça va vous prendre quelques jours, c'est impossible. Mais allez voir, faites-le, donnez, c'est, ça part pour des assos, vous allez voir, hein, c'est tout expliqué sur la page, qui récupère ses sous, pourquoi, à quoi ça sert, etc. Et il n'y a pas d'embrouille, donc vous pouvez aller soutenir cette cause sans arrière-pensée.
Et des news du côté du MMO Warframe.
Voilà, ah là là, c'est une news spéciale pour faire plaisir à quelqu'un en particulier sur Geekzone, qui doit avoir environ 4 ans de jeu, je pense, en temps de jeu hein, dedans. Oui, parce que Warframe, bah, vous savez, hein, si vous suivez un peu l'actualité de ce MMO, shoot à la troisième personne,
free to play,
qui est développé avec amour au Canada depuis des années maintenant. Bon, il évolue sans arrêt, comme tous les games de service et comme tous les MMO qui se respectent. Et donc là, ils ont fait une annonce, il y a encore, évidemment, parce que pour que ça vive, il faut des updates régulières, hein. Je ne vais pas vous expliquer la vie, vous savez comment ça marche. Mais là, c'est rigolo, parce que c'est une update qui s'appelle The Deadlock Protocol. Et cette update, alors je vous ai linké une news de mmorpg.com qui explique exactement ce qu'il rajoute, etc. Évidemment, il y a une nouvelle frame, donc c'est les nouvelles armures de combat qui ont toutes des pouvoirs différents à chaque fois. Il y en a je sais pas combien dans le jeu maintenant. Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est une update autour d'une faction qui s'appelle les Corpus dans ce jeu. Et dans notre monde actuel, les Corpus me font beaucoup rire parce qu'ils sont pas très science-fictionnesques, si vous me permettez l'expression. C'est les greedy bastards de Warframe. C'est les gens qui te disent l'argent, c'est la vie, et si t'en as pas, c'est pas de chance, mais du coup, tu vas nous servir, espèce de sale pauvre, esclave. C'est vraiment une corpo, mais je sais pas, elle ferait penser à certaines classes actuelles de notre monde. Je n'en dis pas plus. Allez voir le trailer, il est assez rigolo, il y a des petites phrases. Je soupçonne hein, les mecs qui font les trailers et qui bossent sur Warframe de cette dit, tiens, c'est marrant, depuis quelques années, ça commence à se voir. On va faire un truc, on va pas en parler, on va juste mettre des petites phrases, ça va être
ce qui se passe.
On verra ce qui se passe, on verra si les gens chopent les vannes. Tu vois, j'en sais rien, mais quand tu regardes le truc, t'as un peu l'impression que c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, donc c'est toujours gratuit, le jeu est gratuit, et vous pouvez déponcer le jeu sans sortir 1€. Mais après, venez pas vous plaindre que vous avez pas de vie ou un backlog, puisque c'est vraiment, mais vraiment très chronophage si vous ne dépensez pas d'argent pour avoir tous les trucs que vous voulez.
Et on va aider votre backlog avec Disintegration.
Ah là là, celui-là, il va pas rester longtemps dans votre backlog, les gars. Je pense qu'il va même pas y rentrer. On en avait un peu parlé car j'avais fait la bêta de ce titre et tout le monde a fait les vannes sur le nom du jeu. Hein. Je suis désolé, puisque évidemment, tout le monde a fait des vannes autour de se désintégrer. Et oui, le jeu se désintègre hein, très très vite dès que tu l'installes. Tout le monde est en train de faire des tests assez... comment dirais-je, drôle, c'est-à-dire que les gens se lâchent hein, dans ces cas-là, ouais. Tu te dis là je me suis quand même vachement fait chier à tester le jeu, maintenant il faut que j'écrive le test, je vais rentabiliser. Je vous avoue que il y en a quelques-uns qui piquent un peu. Alors je suis désolé hein, pour Marcus Leto qui est le mec derrière le projet, qui est un des co-créateurs de la saga Halo, donc qui a dû lever quelques deniers sur son CV, mais qui à mon avis ne recommencera pas de sitôt. Parce que le studio V Interactive, qui était censé révolutionner le FPS avec des éléments de stratégie temps réel, puisque c'était le pitch de Disintegration, à mon avis, je suis pas sûr qu'il fasse un deuxième jeu, ou enfin j'espère qu'il a mis des sous de côté, parce que c'est vraiment très chiant. Alors c'est le jeu typique où tu te dis dès le tuto, je crois qu'on va se faire chier. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors comment ça se passe? C'est je vais pas vous refaire le test complet parce que c'est un peu pénible, mais pour ceux qui n'avaient pas du tout suivi l'historique de jeu, en gros c'est un titre où vous dirigez un personnage sur un hoverboard et vous donnez des instructions au reste de votre squad en même temps sur la carte. Donc t'es en mode FPS, tu te bastonnes dans ton vaisseau si tu veux, et en même temps tu peux diriger sur la carte et donner des instructions au reste de ta team pour qu'ils se déplace, se positionne, défend des zones, attaque des zones, etc., etc. Mais évidemment, en face, ça se passe de la même manière. Et en fait, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas de feeling de fight. Le côté stratégie est extrêmement limité. Donc déjà en termes de gameplay, on est vraiment sur un truc qui où tu sens que ça marche pas. Mais dès les premières minutes de jeu, en fait, tu fais le tuto, tu sors du tuto, t'es là genre. Ok, alors soit on m'a pas dit un truc, soit ça va vraiment pas être bien. Et puis, la misère totale, c'est le mode solo avec un scénar et des méchants. Mais mon pauvre... Oh là là. Alors là, je sais pas, tu vois, mais il y a un des bad guys qui s'appelle Black Chuck.
D'accord. Donc,
on est quand même au top de la création, quoi. Et t'as vraiment un design, t'es dans du mauvais Destiny. Alors déjà, je connais des gens qui aiment pas trop le design de Destiny, mais du mauvais Destiny, tu sens vraiment que les mecs avaient pas d'inspiration quand même. Hein. T'es entre le Halo bas de gamme et le Destiny bas de gamme. Et c'est vraiment, ça marche pas, y a rien de sexy, les personnages, le design, y a rien qui prend. Donc voilà, je vous confirme que c'est un petit peu le jeu où il faut pas dépenser d'argent, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle. Parce que d'habitude, les trucs sont très mauvais, on les met sous le tapis, on se dit, écoutez, sur un malentendu, ça plaira peut-être à quelqu'un. Mais là, je pense qu'il va y avoir une campagne de pub. Enfin, les mecs vont essayer de mettre en avant les sensations extraordinaires, de piloter un gravicycle et puis de diriger ton escouade. Non, parce que t'es 4 soldats qui restent au sol et ton pilote, au final, il n'y a rien qui est sexy. Donc, je suis extrêmement déçu. C'est un titre qu'on suit depuis un petit moment maintenant. Donc, il va se désintégrer. Hein, je vous dis, vous allez voir des news avec ce pauvre titre très mal choisi, du coup, assez régulièrement. Et j'espère que l'équipe derrière arrivera à rebondir. Mais je pense que celui-là va faire un énorme four. Mes condoléances.
Et on reste dans le gaming. On termine avec les annonces qu'on rate, en fait.
Parce que là, on est en train d'enregistrer. Nous sommes jeudi après-midi. Vous écoutez ça vendredi, vous êtes en train de vous dire « Ah là là, Torréfaction, ils vont nous parler des annonces de Sony !» Eh ben non. Parce que les annonces de Sony, elles sont à 21h. Donc, deux solutions. Soit vous les avez déjà vues avec moi parce que je les fais en stream, parce que je n'étais pas trop fatigué, ce qui n'est pas encore une certitude au moment où j'enregistre. soit vous aurez une petite pastille juste après ça pour rire, parce que Fast qui est très fort, et il nous fera un petit truc news flash, et puis je vous enregistrerai quelque chose pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, si vraiment ça vaut le coup. Sinon, écoutez les enfants, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Voilà, c'est tout.
Allez, on passe du côté des apps avec un driver audio virtuel pour macOS, Blackhole. Alors ça me surprend parce que je pensais que côté macOS, justement, le gros avantage de la machine, c'était que tout ce qui était gestion de périphérique était quand même beaucoup plus simple que sous Windows. Enfin, vas-y, explique-moi.
Alors oui, mais en fait, il y avait plein d'outils qui permettaient, au cours des ans, si tu veux, de prendre n'importe quelle source sonore de n'importe quelle application, de n'importe quel périphérique, et de le balancer n'importe où. C'est pas macOS qui le gère en direct, c'est t'as les outils dans macOS normalement pour le faire tranquillement, mais il faut coder des bidules. Sauf qu'avec Catalina et les changements de driver, de sécurité, etc., il y a plein de softs qui ont explosé en vol. Les mecs, ça les a fait chier de refaire leur truc. Ils ont fait genre non, c'est bon, j'en ai marre. Il y a des outils payants qui existent déjà, qui sont très bien, mais qui sont payants avec des interfaces sexy, tout ce que vous voulez. Hein. Mais on n'avait plus d'outils gratuits qui permet de bidouiller dans son coin. Genre tu veux préparer un stream OBS mais qui avec du son modifié dans Reaper par exemple, c'était compliqué quoi. Ou alors il fallait sortir la carte de crédit. Donc tous ces trucs là maintenant sont de l'histoire ancienne grâce à Blackhole qui existe depuis quelques semaines, qui maintenant tient vraiment bien la route. Donc je vous ai linké la page du projet sur GitHub. Et voilà, il y a rien d'autre à dire. Hein. C'est un virtual audio driver, donc ça fait exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça vous permet de gérer, ça vous rajoute un périphérique audio dans votre Mac, et avec ce périphérique audio, vous pouvez balancer vos pistes, toutes vos entrées, tous vos logiciels, pour les brancher avec n'importe quel autre logiciel. Et après, vous récupérez la sortie, vous faites votre tambouille exactement comme vous voulez, et cette fois, c'est compatible officiellement avec macOS Catalina. Si vous avez un Mac ultra puissant, genre un nouveau Mac Pro parce que vous avez beaucoup trop d'argent, vous pouvez aller jusqu'à 256 channels ou plus, donc pas c'est mal. Beaucoup. De base, c'est 16, hein, donc déjà avec 16...
Oui, t'as de quoi faire.
Je pense que vous avez de quoi voir venir, mais en fait, c'est pas fixé, donc vous pouvez vous faire plaisir, et ça gère du 44 au 192 kHz, donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, et surtout, ça ne rajoute aucune latence au niveau driver. Ça balance instantanément de l'un à l'autre. C'est très bien codé, mais c'est aussi parce que ça repose sur la couche justement de macOS, mais qui jusqu'ici n'était pas très bien exploité par les outils gratuits. Encore une fois, je vous le dis, il y avait des trucs payants qui existaient déjà pour faire ça, mais voilà, celui-là, il est à connaître. Il y a des petites news qui sont sorties un petit peu partout sur ces derniers jours. Je me suis dit que j'allais en parler ici sans en parler sur Geekzone, c'est quand même très spécifique. précise juste, vous verrez sur la page de l'installation de GitHub que vous pouvez l'installer directement avec Brew. Si vous connaissez pas Homebrew, écoutez, venez en parler sur le forum. On vous expliquera comment ça marche. C'est un truc qui permet d'installer plein de choses en ligne de commande sur macOS. Et c'est extrêmement pratique. C'est un package manager. Hein. Ceux qui viennent de Linux connaissent très bien. Mais c'est un outil, dès que vous êtes un petit peu barbu sur macOS, c'est un des outils à connaître absolument. C'est trop pratique.
Et moi, je voulais vous parler de Grammara. Alors, Grammara, c'est pratique si on écrit parfois en anglais pour trucs pro ou bien pour des correspondances personnelles. Si vous êtes comme moi, vous avez un bon niveau d'anglais, mais il y a quand même des petits moments où vous dites j'hésite entre telle ou telle formulation, est-ce que je dois tourner cette phrase-là dans ce sens-là, etc. Donc, pour vous éviter les mauvaises surprises et un anglais incompréhensible, eh bien, Grammara, c'est une petite app en ligne gratuite qui permet justement donc de vérifier sa grammaire, mais aussi d'améliorer son style en anglais. Alors, c'est assez simple à utiliser. On se crée un compte, on spécifie son niveau d'anglais. Il y a trois choix possibles. Le premier choix, c'est les gens ont du mal à comprendre mon anglais. Ce qui est quand même pas très pratique. Le deuxième, c'est on me comprend, mais c'est clairement pas ma langue maternelle. Et le troisième, c'est je suis bilingue, mais je fais parfois des fautes. Et une fois qu'on a défini donc son niveau, et ben ensuite, on copie-colle son texte dans une fenêtre et le soft va faire des suggestions. On choisit celle qui convient et on remplace ça donc dans le texte original. Donc, c'est plutôt pratique, c'est gratuit. Alors, effectivement, il y a un petit bémol dont j'ai pas parlé dans la news en fait, mais que j'ai réalisé par la suite, c'est que quand on est vraiment pas bon en anglais et qu'on compte sur ce soft, si vous faites des suggestions, je suis pas certain que ça va beaucoup vous aider à choisir la bonne. Mais bon, voilà, c'est mieux que rien, on va dire, et en plus c'est gratuit, c'est accessible en ligne. Voilà, je me suis dit que ça intéresserait sans doute une partie de nos auditeurs qui sont amenés à rédiger parfois en anglais. Et on reste dans les apps, et tu voulais reparler de Retrospect, dont on avait déjà parlé quoi la semaine dernière, non ?
La semaine dernière, c'est juste pour dire que le papier est sorti sur Geekzone, je vous ai mis le lien dans le biais qui accompagne le podcast, c'est toujours la même application qui permet d'avoir des filtres rigolos, et en fait je voulais préciser, enfin des filtres rigolos, des filtres qui reprennent en fait les machines de l'époque des années 70 à 90, donc vous prenez une belle image HD, vous en faites une bouillie de pixels et c'est... intéressant. Oui, je sais, c'est incroyable. C'est un concept un peu bizarre. J'en conviens, mais allez voir la news et j'en parlais parce que justement, on a eu des idées. Enfin, on a eu. Moi, j'ai pas d'idée à ce niveau-là. Hein. Tu vois, le graphisme, je mets dans l'application et puis je regarde si c'est joli. Et puis après, si c'est pas beau, je fais tant pis. Comme moi. Voilà. Donc, non, c'est parce que Made, qui est un graphiste français, un ancien, qui est toujours dans la scène de Demo Makers et qui est lui-même un sacré génie, tu vois. Et ça, c'est la version polie, hein, parce qu'on serait pas sûr d'un podcast, je sais pas ce mot-là que j'aurais employé. Enfin, en tout cas, pas ce qualificatif, avant génie. Voilà, vous m'avez suivi maintenant. Le mec est vraiment trop fort. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'application. Mais en plus, il est en contact avec le développeur. Et le développeur, il lui a filé des petites idées. Et du coup, il lui a dit, écoute, ton interface, je pense qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis, on pourrait rajouter ces fonctionnalités. Et le mec a dit oui, le fou. Donc, non seulement l'appli est géniale, mais elle va évoluer dans le bon sens et à mon avis assez rapidement. Je vous explique tout ça sur le billet qui est sur geekzone.fr, je vous laisse aller le lire.
Et puis tu voulais nous parler de Photoshop Camera.
Oui, monsieur Adobe qui nous sort une nouvelle application iOS Android, toujours sous le nom de Photoshop, hein, parce qu'une marque comme ça, évidemment, tu la martèles. Mais en fait, tu Photoshop rien du tout avec Photoshop Camera. C'est vraiment une appli pour faire des photos avec des effets intégrés, exactement comme Instagram ou un milliard d'autres applications qui existent déjà sur le marché. Là, eux, ils essayent de faire un truc qui est assez malin, c'est déjà pour pouvoir l'utiliser, elle est gratuite, tous les filtres sont gratuits, tout va bien, il n'y a pas d'arnaque, mais il faut quand même se loguer avec son compte Adobe, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, on les connaît, les petits gars de chez Adobe, à un moment, il y aura une entourloupe, hein, ça ne rate jamais avec eux. Donc du coup, j'en parle parce que les effets intégrés sont quand même rigolos, c'est dispo sur iOS Android, comme je disais, donc il n'y a pas de favoritisme. En revanche, j'ai noté sur la première version que j'ai testée aujourd'hui que ça chauffe pas mal au niveau de votre appareil, sur Android ou iOS, hein, j'ai essayé les deux et ça m'a l'air il y avait une bonne petite température quand on essaye les effets et en plus ça rame même sur des trucs des flagships des deux côtés, donc les effets sont bien mais assez gourmands je pense, et la batterie en prend un coup aussi au passage, Donc bon, je préfère prévenir. Après, c'est la première version, ça vient de sortir, il y a moyen que ça s'améliore. Et puis bon, bah moi, parler d'Adobe, hein, ça me permet toujours de vous rappeler que les outils Affinity sont en promo. Donc je vous ai remis le lien de la news que j'ai fait au mois de mars.
Cette transition.
Mais oui, parce que Affinity, c'est trop bien et ça permet de se passer des outils Adobe dont 90% des gens n'ont pas vraiment besoin, en fait. Et puis à 20 balles le Photoshop Like, ça serait dommage de passer à côté. Même ma boîte côté pro a switché ce mois-ci, d'ailleurs. Et ça fait partie des nombreuses sociétés ou étudiants qui ont fait le move. Donc voilà, ce tarif, je vous conseille d'aller jeter un œil.
Et on termine cette sélection d'app avec un truc que je vais me risquer à prononcer quand même, ZBrush Core Mini.
Trop facile, il n'y avait ouais. aucune difficulté.
Mais je ne savais pas si c'était ZBrush ou ZBrush. Si
alors, tout, moi, je pense vois. Qu'on... Écoute, je propose qu'on renonce, on le renomme ZBrush, parce que maintenant que tu le dis, ZBrush, c'est quand même vachement plus sexy.
Moi, je trouve ça plus vendeur. Ouais.
Non, mais ZBrush, alors c'est l'outil que tous les gens qui s'intéressent à la 3D connaissent, puisque c'est un outil de sculpture 3D qui permet de faire des trucs absolument incroyables, sauf quand vous vous appelez moi.
C'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler, en fait.
C'est un outil pro qui est vraiment ultra utilisé pour faire de la modélisation. C'est ultra efficace. Et là, ils viennent de sortir donc cette version mini qui est une version gratuite. Donc, évidemment, il n'y a pas tout. Hein. Il n'y a vraiment que quelques outils pour commencer à vous appâter. Hein. C'est comme avec le crack. Tiens, prends cette première dose. Et puis après, vous pourrez investir dans ZBrush Core, qui était déjà une version pas chère, mais payante, de ZBrush, la vraie version qui, elle, va vous coûter bah, du vrai argent parce que c'est votre vrai travail et vous en avez vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste pour faire mumuse et imprimer un truc en 3D parce que vous avez eu une idée géniale pour réparer votre bouton de porte. Tu vois. Donc, évidemment, je voulais juste dire que c'était dispo, c'est important à savoir. Les professionnels de la profession qui n'aiment pas dépenser de l'argent peuvent évidemment se tourner vers des solutions comme Blender et compagnie. Mais l'avantage de ZBrush Core Mini, c'est que c'est relativement simple à prendre en main. Après, bah, si vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas de talent. Hein. L'application, elle peut rien pour vous. Moi, je vous confirme, elle peut rien pour moi. C'est la vie, c'est comme ça.
Allez, on passe du côté de la culture. Je voulais vous parler de la sortie de la bande-annonce de la saison 2 de Doom Patrol. Est-ce que tu as regardé la saison 1, toi, ou pas?
Bah, je sais pas, je connais un mec qui fait comment ça s'appelle? Ah oui, du prosélytisme sur ce truc et qui me lâche pas pour que je regarde cette série. Je crois qu'il est belge. Je sais pas si tu connais son nom. Je crois que ça commence par un F.
Ouais, ça me dit quelque chose. Bah effectivement, c'était mon plus gros coup de cœur côté série en 2019. Doom Patrol, c'était je sais pas, j'ai accroché au perso, je les trouve super attachants. Il y a un côté un peu Scooby Team, tu vois les l'équipe de d'investigateurs ouais, super-héros et c'est vraiment décalé. Il y a un Alan Tudy que toi ça devrait te parler en plus
oui, qui est, que j'adore,
voilà, qui est fantastique une fois de plus. Bref, le trailer de la saison 2 est sorti, je vous link la vidéo dans le biais qui accompagne ce podcast. Alors donc rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, Doom Patrol c'est adapté de comics publiés chez DC et ça raconte l'histoire grosso modo d'une bande de losers qui sont dotés de pouvoirs et ce sont des pouvoirs qui leur ont causé à la fois aliénation et traumatisme. Ils ont été recueillis et pris en charge par The Chief qui est incarné par Timothy Dalton et dans l'équipe qu'on retrouve dans la série télé, il y a Jane donc qui a 64 personnalités multiples, chacune avec des pouvoirs différents, donc c'est assez facile à gérer pour un scénariste. Rita Farr qui est une ancienne actrice hollywoodienne qui s'appelle maintenant qui est surnommée Elastigirl qui lutte en fait pour pas que son corps se transforme en espèce de masse informe, donc c'est une espèce de blob si elle se laisse un peu aller, donc ce qui est jamais très simple à gérer. Larry Traynor qui lui est un militaire homosexuel qui a en lui une entité d'énergie négative qui
tout va bien
des blackouts, donc c'est un peu compliqué aussi. Et puis il y a Cliff Steele qui est incarné par Brendan Fraser, enfin incarné, il lui prête surtout sa voix en fait puisque c'est un robot, en fait à la base c'est un ancien pilote automobile, il a eu un accident et on a transféré donc son cerveau dans un robot qui a un look un peu archaïque. Et puis il y a Vic Stone, donc on ne présente plus, hein, c'est Cyborg dans les comics d'ici, donc c'est une team assez improbable. Dans la saison 1, elle était aux prises avec Mr. Nobody, qui était une sorte d'entité immatérielle incarnée par Alan Tudyk, j'en dis pas plus, je ne te spoil pas.
Merci.
La saison 2 va a priori les amener à essayer de retrouver la fille disparue de Chief, qui n'a pas l'air tout à fait normale non plus. Elle a un visage un peu animal dans le trailer. Bref, voilà, la saison 2 arrive, ce sera le 25 juin sur DC Universe et HBO Max, et bien évidemment chez notre oncle Bob VHS des États-Unis.
Notre ami respect.
Voilà. Et je voulais terminer cette section culture et cet épisode du podcast avec une news concernant nos amis de Gogo Penguin, dont j'avais déjà parlé dans Torréfaction 103.
Meilleur nom. Voilà. Meilleur nom. Je t'interromps, mais c'est meilleur nom. Bravo.
Torréfaction 103, donc d'octobre 2019. J'en remets une couche, en fait, parce qu'ils viennent de sortir un tout nouvel album qui est tout simplement baptisé Gogo Penguin. Ils se sont pas fait chier. donc, je rappelle, c'est un trio instrumental originaire de Manchester, composé de Chris Illingworth au piano, de Rob Turner à la batterie et de Nick Black à la basse. Ils sont actifs depuis 2012 et ils font une espèce de jazz, trip-hop, avec des petits élans de musique électronique. Il y a un peu de musique classique aussi. En fait, on les compare souvent à une espèce de fusion improbable entre Brian Nino, Massive Attack et Claude Debussy, ce qui est plutôt flatteur. Moi, j'aime beaucoup, c'est parfait pour bosser, c'est parfait pour se détendre, c'est instrumental, donc on n'est pas perturbé par des chants. Et leur nouvel album, donc le cinquième, sort a priori aujourd'hui, et on va en écouter un petit extrait, bien évidemment, ça s'appelle Cora. Cora, donc tiré du dernier album de Gogo Penguin, intitulé tout simplement Gogo Penguin. Et c'est la fin de ce 135e épisode de Torréfaction.
Ouais, il paraît, ouais. Je me tâtais pour vous parler de Krungbing et d'autres trucs bizarres que j'ai écoutés cette semaine, mais j'ai pas pris de notes, alors je vais pas le faire. Et peut-être que la semaine prochaine, je t'empêcherai de parler de trucs avec des noms bizarres et je parlerai de trucs avec des noms bizarres moi-même.
Aux abris. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao tout le monde.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.